Quelle équipe remportera le match? Quel sera le score final? Qui marquera un but? Télécharge l'application Unibet et parie sur les plus grands matchs européens. En ce moment, profite d'un bonus exceptionnel de 100€ pour toute nouvelle inscription. Unibet, par les joueurs, pour les joueurs. Bonus versé en crédit de jeu non retirable en cas de premier pari perdant. Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35, Daniel Riolo et là, Florent Gautreau et là, Roger, toujours avec nous, notre auditeur. Et Enzo Djebeli nous rejoint. Bonsoir Enzo.
Bonsoir Gilbert et bonsoir à tous.
Tu sors un bouquin, alors là, c'est même pas un bouquin, c'est une encyclopédie sur le métier de recruteur. Il y a 550 pages.
Ça se limite,
Oui, je sais pas si ça se limite, parce que là, on n'a pas pu tout lire, on va pas se mentir. Recruteur, tout sur le métier le plus important et le plus méconnu du football. Le plus important, t'exagères pas un peu?
Non, parce qu'au final, si on devait faire une analogie par rapport au corps humain, le recruteur, c'est les yeux d'un club. Et donc, c'est important de voir ce qu'on va acheter. Et aujourd'hui, dans un foot de plus en plus business, c'était un incident de vestiaire. Maintenant, ça devient un accident industriel, un mauvais recrutement. Donc aujourd'hui, ça devient de plus en plus le métier le plus important du football, selon moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu en écrire un livre.
Mais quand tu parles de hiérarchie, il y a quand même entraîneur.
Bien sûr.
Quand on parle de recruteur, bien sûr. Je ne parle pas de hiérarchie. Je parle de maillon. En
fait. Moi, je suis convaincu que c'est un métier extrêmement important et qu'il l'est de plus en plus. Néanmoins, il est mal décrit.
C'est vrai.
Alors, je pourrais commencer par te demander qu'est-ce que ça veut dire, mais parce que ton titre, il est au singulier. Oui. C'est un recruteur. Donc, ouais. On a l'impression que c'est un gars pour un club, époque Pierre Garonnière à Saint-Etienne, le mec qui partait dans sa bagnole tout seul. Or, aujourd'hui, ce sont des cellules de recrutement composées de plusieurs hommes qui ont des stats, des datas, ont leurs yeux, se déplacent. Travaille pour un club ou pour plusieurs clubs? Globalement, il faut qu'une cellule de recrutement soit pour un club, on est d'accord?
Moi, oui, c'est ma conception des choses.
Alors, donne-nous ta conception et ta définition de ce métier, du coup, alors.
Pour moi, justement, ce qui est bien, c'est vraiment ce qui est bien, parce que c'est vraiment l'introduction du bouquin. Le mot anglais est plus adapté, le mot scout est plus adapté à ce qu'est le métier de recruteur. Scout, c'est à la base, c'est l'éclaireur militaire. Et l'éclaireur militaire, c'est celui qui va un petit peu voir le front d'à côté pour voir quelle troupe il y a en face, qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour pouvoir battre l'adversaire, etc. Donc il y a ce côté un petit peu de prise d'information partout pour pouvoir après savoir quelles armes choisir. Donc pour moi, c'est ça la vraie définition du recruteur. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Daniel. Aujourd'hui, on a une vision très et aussi en France, on a une vision très archaïque du métier de recruteur, où on a un peu l'homme providentiel
qui a le nez, qui a l'œil.
Non, c'est pas vrai.
Aujourd'hui, le DS n'est plus le recruteur. Ouais. C'est la stratégie sportive, on va dire, c'est et sûr, avec une armée de scouts.
Exactement.
Alors c'est quoi quand justement Flo employé ce mot, c'est quoi l'idéal pour un club? Il faudrait qu'il y en ait combien des recruteurs dans un club pour que ça fonctionne bien?
J'ai une idée de ça. Moi j'ai travaillé à Reims dans une cellule ultra courte, ça marchait super bien parce que le planning et tout ce qui était la délimitation des facteurs contraignants et limitants était super clair.
Et vous étiez combien pour être concret?
On était 3 plus 2 parce qu'il y avait un responsable des prêts aussi, donc il y avait au final.
C'est quoi, tu peux réexpliquer ce que tu as dit avant, les facteurs limitants?
Les facteurs contraignants, c'est tout simplement c'est
ton l'oseille but. Que t'as pas.
Voilà, l'oseille que t'as pas. Les facteurs limitants, ça va être les règlements, ça va être aussi la culture du club et tout, etc. Après on peut prendre dans tous les sens.
Ça, tu sais que c'est passionnant, très peu de gens savent que dans une cellule de recrutement, t'as des gens qui sont nommés pour réfléchir à des questions hyper précises.
Ah, bien sûr, mais moi, dans tous les clubs par lesquels je suis passé, j'étais en contact avec les supporters, ne serait-ce que pour savoir
quel genre de profil
ils aiment. Juste parce que c'est important de comprendre la culture du club dans lequel t'es. Un joueur qui est à Marseille, il va pas forcément réussir à Reims et vice versa. Et surtout, il va pas être apprécié de la même manière dans la club pour telle qualité, même pour telle défaut.
J'interviens dessus parce que pour avoir lu ces pages-là, c'est là que tu interviens sur tel joueur face à tel contexte.
Exactement. Le recruteur.
Parce qu'on demande quel club, on dit souvent, quel joueur il faut pour le club.
Exactement.
Et toi, tu dis, et c'est un truc évidemment capital. C'est C'est marrant parce qu'il y avait des trucs, on avait l'impression de voir se sentir visé, parce que tu dis, les gens au micro te disent, ce mec est une banane, ce mec est
non,
nul.
Non, mais je dis juste que c'est pas la même fonction. Ouais. Ça veut dire que, effectivement, un recruteur, il peut voir un joueur, il fait un match pourri, il fait un match désastreux. Mais il peut dire, c'est ce joueur qu'il faut pour mon club. C'est ça, en fait. C'est que, il y a un paradigme pour le recruteur qui est différent de la performance. La performance, c'est pas forcément ce que le recruteur va analyser.
C'est intéressant parce que même pour nous, ouais, dans l'observation, je te laisserai continuer, mais dans l'observation, c'est important de voir, je te prends un exemple au hasard, hein, ouais, vraiment, bien sûr, parce que t'en donnes aussi qui sont intéressants. Mais tu vois, Mama Baldé.
Ouais.
3, qui arrive à Lyon.
Ouais.
C'est ce qu'il fait au début à Lyon. Si un gars vient l'observer à partir de là, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Alors que tu ne peux pas obérer tout ce qu'il a fait et là où tu l'as vu faire ce qu'il a fait à 3, et ce qu'il va faire après.
Le contexte,
parce que comme tu le dis à un moment donné,
par qui l'entraîneur va te parler ou pas.
Non, mais là, tu parles que foot. Et Enzo, il parle aussi dans le bouquin. Un truc perso, un problème d'environnement, un machin qui vient perturber.
Est-ce que vous avez des fiches de cet ordre-là?
On enquête.
Quand t'es recruteur, pour savoir, ce joueur, on m'a dit, j'ai appelé un tel, qu'il n'arrête pas de sortir, c'est un mec qui fait le con,
On enquête, en fait.
Ça, c'est la base.
Mais déjà, même sur le terrain, on s'intéresse, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important d'être sur le terrain, lorsqu'on voit les matchs, on essaie de voir les signaux non verbaux. Comment il réagit avec les coéquipiers, s'il est capitaine, est-ce qu'il est écouté? Parce que parfois, moi, j'ai vu des capitaines qui ont le brassard, ils parlent, mais tu vois que le coéquipier, il se retourne, il entend pas, il est pas attentif, ou alors même tout simplement des joueurs, qui vont pester contre le joueur parce qu'il a pas fait la passe, alors que c'est pas le bon choix.
Les fameux bras en l'air de Cherki,
ouais, après, je veux pas viser des joueurs en particulier, mais t'as raison.
C'est Laurent Blanc lui-même qui disait qu'il cesse de faire ça.
Parfaitement raison, Florent. C'est qu'il y a des joueurs qui dans les signaux non-verbaux vont amener des signaux négatifs que déjà tu le sens, déjà tu vas invalider en tant que recruteur le caractère du joueur. Tu dis ça va pas coller chez toi parce que chez toi t'as un vestiaire où je prends l'exemple de Reims, tu vois, où tout le monde joue pour pouvoir être valorisé et mettre mis en avant, et c'est un club plutôt paisible, tu vois, dans l'environnement. Si t'amènes un mec qui commence à lever les bras alors que tu lui fais pas la passe, alors qu'en vrai le jeu c'est de jouer au second poteau, le jeu au premier, ça va pas coller. Donc du coup, tu notes ça, tu peux mettre une croix rouge sur un joueur juste en voyant les signaux non-verbaux, le mental qui transparaît du joueur.
Mais quelle est la formation finalement du recruteur? Il faut qu'il connaisse le foot, mais c'est quoi, comment on dit, tu connais le foot au point de savoir tel joueur, son développement, il a 20 ans, à 23 ans, il sera meilleur. C'est compliqué, mine de rien.
C'est tout le problème. C'est d'ailleurs, moi, j'ai une carrière ridicule dans le football, j'ai joué en R3 au maximum. C'est ce qu'a fait ma chance, parce que justement, il n'y a pas de diplôme pour être recruteur. Déjà, ça a fait ma chance parce que j'ai pu gravir les échelons en tant que non-ancien professionnel, et parce que je ne peux pas passer des diplômes parce qu'il n'y en a pas. C'est aussi le problème, parce que du coup, c'est aussi ce qui contribue à faire du recruteur l'image du mec, ouais, t'as l'œil, toi. Mais non, un recruteur, ça a une méthodologie, ça voit beaucoup de choses, ça doit prendre tous les facteurs.
Mais il y a la légende de j'ai l'œil.
Bah oui, mais c'est une légende qu'il faut absolument déconstruire, parce que c'est complètement...
D'autant que tu dis dans le bouquin, à un moment donné, la théorie des 1000 minutes.
Ouais.
C'est que, évidemment, tu vois un joueur, en gros, l'équivalent de 1000 minutes, tu vois combien ça fait de matchs, tu le dis, une douzaine de matchs.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, pour donner un exemple qui est super, sur un défenseur central que vous avez pas recruté finalement, je crois, à Reims.
On peut en parler, hein, si tu veux.
Ouais, qui était au final de la Ligue Europa hier. Oui, ouais. T'as raison.
Edmond Tapsoba, Edmond Tapsoba qui a fait la finale.
Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait, c'est que vous l'aviez repéré plusieurs fois, et vous vouliez le voir dans un contexte précis qui était un gros match contre une grosse équipe, parce que tu t'es aperçu qu'il y a certains joueurs qui font 8 matchs très bons contre plein d'équipes différentes, mais qui ont du mal dans les matchs à forte pression et autres. Et donc, c'est ça que tu as expliqué sur les 1000 minutes.
Oui, parce que Tapsoba, en fait, il performe bien avec la réserve de Guimaraes. Après, il est promu en équipe première, il fait un début de saison canon, et il a eu un seul gros match en championnat du Portugal, c'était contre Porto. Et qu'est-ce qu'il fait sur ce gros match? Expulsion première minute.
Merde.
Donc du coup, tu te dis, à Reims, surtout à l'époque David Guillon, on était une équipe qui était réputée pour être fort contre les forts et faible contre les faibles. Donc au final, ça faisait notre pain d'avoir un joueur qui était performant dans les gros matchs. Donc il fallait à tout prix, puisque c'était une possibilité, devenu une possibilité, il fallait à tout prix l'observer à deux, parce que j'étais avec mon collègue Wassil, que je salue d'ailleurs, attention maximale sur Tapsoba. On va voir un match où il y a 22 acteurs et on y va que pour Tapsoba. Pourquoi ? Parce qu'on devait justement voir comment il allait gérer un match
contre Benfica, c'est ça ?
Contre Benfica, exactement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des matchs à très grosse intensité au Portugal. Il y en a trois, hein, six dans les deux. Donc du coup, au final, c'était extrêmement important, surtout quand t'as Guimarães qui est un peu avec Braga l'équipe qui se bat pour les places en Europe. C'était très important de constater sur ce match-là. Et donc c'est là que tu te poses la question, quel joueur pour quel club? Bah justement, est-ce que Tapsoba répondait à ce moment-là à l'adversité d'une grande pression? Oui, mais est-ce qu'il aussi rentrait avec nos joueurs, parce qu'il fallait l'imaginer avec Abdelhamid, avec Younis? Là aussi, oui, mais de manière différente.
Complémentarité.
Exactement, complémentarité. Parce que.
Oui, il faut bosser aussi là-dessus, sur la complémentarité. Mmh.
Exactement.
En l'occurrence, juste pour la petite histoire, il a fait un très gros match.
Ouais.
Dans le fameux contre Benfica. Ouais. Et après, vous ne l'avez pas pris pour d'autres
choses. Pensez du recruteur. Ouais. Moi, souvent, quand je rencontre un recruteur sur les stades, il dit ouais, bon, lui, de toute façon, je l'avais vu, mais comme d'hab, le club ne m'a pas écouté. Ça, c'est un classique. Les recruteurs, t'entends tout le temps ça.
Non, là, ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai beaucoup plus d'histoires de joueurs qu'on n'a jamais pu signer et qui est derrière cartonne que d'histoires de joueurs qu'on a signé et qui cartonnent, hein, puis, déjà, les recruteurs, moi, c'est ce que je dis un peu dans le bouquin, les recruteurs qui ramènent tout à eux, je me méfie un peu. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Daniel, en fait, une cellule qui travaille bien, c'est une cellule qui se concerte. Une cellule qui se recoupe. Parce que un recruteur, il est tout le temps dans le doute, en fait. Il doit tout le temps se remettre en question. Et lorsqu'il voit un joueur, il va demander à son collègue, tu peux voir un peu. Il m'est arrivé d'ailleurs. Il y a un joueur, j'en parle aussi dans le bouquin, j'avais ultra validé, etc. Tout l'été et jusqu'à l'automne, magnifique et tout. Je mets les notes maximales pour Reims, et tout, etc. Quand justement on croise l'information avec mon collègue, il fait un rapport beaucoup moins fort. Et moi, du coup, j'avais arrêté de suivre parce que j'étais sur d'autres priorités. Et lorsque j'ai revu les matchs, et surtout même les stats d'ailleurs, qui correspondaient avec les matchs lorsque j'ai tout croisé, je dis, ah ouais, effectivement, en fait, le joueur, en fait, il a un creux en hiver parce qu'il est cuit, en fait. Il est cuit, donc, effectivement, les trois premiers mois, ça s'est bien passé, mais il a une baisse de rythme complète, il peut pas tenir une saison entière.
Vous l'avez pris ?
Non, on l'a pas pris.
Et il a fait carrière, ce joueur, on sait où il est, c'est qui?
Le joueur, c'est Adam Maher, on peut en parler, hein, y a pas de souci. C'est un ancien international, hollandais d'origine marocaine, qui aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite, je crois, et il joue pas beaucoup. Mais donc, justement, il y avait ce côté physique qui collait pas sur le long d'une saison.
Alors,
pub.
Ah.
Et oui, ça arrive. Et ensuite on continue la discussion. Encore un petit quart d'heure d'after ensemble. T'auras la parole tout de suite, Daniel. On se retrouve dans quelques secondes.